Bonjour Laetitia Gaillet, j'ai une nouvelle incroyable.
Oui.
Vous revenez à midi.
C'est faux.
Midi-midi ?
Non, midi-midi.
Il y a des gens qui m'offrent des viennoiseries quand ils sont en retard. Voilà. Oui.
Vous pouvez l'acheter pour une viennoiserie.
Franchement,
je suis déçu. Je me fais acheter pour
l'opération corps de rêve.
Opération corps de rêve.
Il est déjà en place. Donc,
bien sûr. L'été, c'est bientôt.
Ça démarre.
Salut.
À tout à l'heure, midi.
Mais même toi, tu t'y mets, c'est nul.
C'est la bande originale avec Lila Cadon-Boudadi, Morgane Guérignan, Florence Mendez, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Zabou Breitman.
Oh, bravo madame.
Nous allons avec Zabou parler de Dorothy, cette pièce qu'elle a écrite, qu'elle porte, qu'elle met en scène et qu'elle interprète seule en scène, brillamment, sur Dorothy Parker. Nous avons donc un blind test, mais alors sur qui, sur quoi ?
New York ?
Dorothy ?
Parker. Les chansons de Dorothy.
Morgan !
Non !
Ah, je vais me gêner.
Moi j'avais préparé tous les Dorothy et tous les Parker. Je te jure.
C'est bien, tu seras prête pour la prochaine fois.
Ouais, c'est ça.
Le Maceo Parker.
Bah ouais.
Dommage. Charlie.
Tanguy. Daniel. Téléphone, bien sûr, New York avec toi.
Ah ouais.
New York avec toi.
Ouais, non, mais je cherche les autres.
Ah.
Normalement, elle prend son téléphone portable pour aller chercher d'autres titres. Et là.
Tanguy. Ah bah oui, mais si
elle
on dit pas
son prénom.
T'as déjà un point. Franchement, ce serait.
Tanguy ?
Non, bah non.
Ce serait élégant de ta part, Tanguy.
Bah non, bien
non mais
sûr,
je m'en fous, moi, Florence.
Non, non, c'est Florence qui a
le point. Non, je m'en fous.
Si.
Bon, je fais ce que je veux.
Ça, j'arrête.
Je veux pas un point. D'autant que j'ai pas donné la réponse. Doucement avec Tanguy, on prépare demain. Vous savez que le vendredi, il est souvent noyé poil. Et là, si on commence à le chauffer dès aujourd'hui, ça va pas le faire.
Qui chante ? Votre prénom ?
Tanguy ?
Oui.
Serge Gainsbourg, New York, USA.
Juste sur les percussions ?
Ah oui, carrément. Ah bah Gainsbourg, oui.
J'ai vu New York, USA. J'ai vu New York, USA.
J'ai jamais rien vu d'aussi haut. Et là, la table,
il n'y a que des percussions.
Je cherche.
Daniel,
ouais.
New York.
Oui, mais qui chante ?
Les bêtes.
Attention, écoutez bien.
Le taquin.
Les Stones, non. Pas du tout.
Florence, Jimi Hendrix.
Non.
L'idée, hein.
One more time.
Daft Punk.
Daniel.
Les Sparks.
Isaac Hayes.
Non.
Florence, Santana.
Non.
J'adore ce truc. Hey.
One more time.
Yeah.
Faut lui retirer.
J'adore.
Titre.
Toujours pas.
Non.
Ah, vous attendez la voix peut-être.
Oui.
Ah,
peut-être.
Ok. Elle vient pas.
Ce serait une bonne émission ça. La voix.
Ah, bah
en
bon.
Attendant la
en
voix.
Belgique. Carton.
Québec.
Oh là
Tanguy. Lenny Kravitz.
Joli. Oh. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît, avant la réponse. Qui chante ?
Gottener ?
Ah,
non. Ah, tu l'as, Morgane. Je sens que tu l'as.
Je n'aurais pas sans la voix.
Si, tu non. l'as.
Florence, Blondie.
Non.
Oh, Florence. Katy Perry.
Non, pas loin.
Oh oui, là, c'est du
Florence monde. Taylor Swift.
Taylor
oui.
Swift.
Moi, je dis que les chansons de merde, moi, vraiment.
La petite blonde.
Ouais. Oui, mais cherchez son
elle
nom.
Est grande,
elle est si mignonne.
Ouais, elle est très belle.
Bah oui.
Chanteuse de country music.
Bah, ouais.
Qui a brillé, hein.
Country girl.
Oui, qui a brillé, c'est ça.
Elle a voulu gagner sa vie.
Voilà. On gagne avec la country, je te dis.
Ça fait un point pour Florence, bravo. Un pour Morgane, trois pour Tanguy. Attention, qui c'est le.
C'est quoi
mais je rêve ou quoi
Florence, Alicia Keys.
Il manque des points. Attendez, il manque des points, ça va pas du tout ça.
Bah moi, il y a Daniel. Quatre points.
Moi, j'en avais six.
Toi, t'en as
déjà.
Un, Daniel. Ah, ok, d'accord. Un pour Daniel, un pour Morgane, un pour Florence et trois pour Tanguy. Ça y est, on y est. Ça vaut quatre points et la victoire.
Daniel. Et là, Charlie les coups durs.
Non.
Herbert Léonard.
Non.
J'essaye, hein.
Ah, attends.
Oui.
Tanguy.
Oui.
Billy Joel.
Non.
Tiens.
Ah,
non,
c'est vrai que ça pourrait.
New York State of Mind, je pensais.
Non, bien ça ressemble, c'est vrai.
Non, c'est toujours pas Tanguy, il va pas te le donner à l'usure.
C'est pas... One more time.
Oh non.
Tiens-le.
Il a donné le titre, il a pas donné l'interprète. Je veux l'interprète. Tanguy, t'as le titre.
Ah, New York State of Mind.
Ouais,
ah, c'est,
une
reprise de la, c'est la reprise de Billy Joel, alors.
Par qui?
Bah, je ne sais pas, mais l'original, c'est Billy Joel.
Je m'en fous, je veux l'interprète.
Morgane s'apprête à tricher.
Non, non.
Oh là
Morgane,
là, Morgane,
non.
Morgane,
non,
oh là là,
Shazam,
oh là là, je lui ai envoyé un texto,
Oh,
la
solidarité féminine.
Ah ouais. Non, mais c'était même pas, je regardais juste un peu.
Écoutez la voix.
Une femme.
Ouais.
Diana Krall.
Florence Toriamos.
Jean.
Johnny Mitchell.
Oh. Non.
Ah, Florence, pas présente.
Florence,
oh
oui.
Non, c'est pas possible.
Mais pars pas comme ça, Tanguy.
Barbara Streisand, victoire de Florence Mendes. C'est ta première ou quoi?
Ouais.
Mais non.
Ça fait tellement de premières.
Eh ben voilà, très bien. Bravo. Merci d'accueillir Zabou.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Tu la reconnais pas, c'est elle en salopette noire.
Bonjour.
En combi, bonjour,
bonjour
Zabou.
Oh, je suis tellement contente de vous voir.
Tu m'étonnes.
Moi, j'ai l'impression que c'est Noël.
Dorothy, résistance, autrice, scénariste, grande plume de New York et du New Yorker, en l'occurrence, puisqu'il y a quatre nouvelles dans la pièce.
C'est ça, il y a cinq nouvelles, dont quatre du New Yorker, mais la cinquième, non.
C'est l'histoire donc de cette femme que vous avez déjà interprétée depuis quelques années. J'ai l'impression que cette idée, ce seul en scène, ce spectacle, avant de l'écrire, vous le portiez déjà un peu en vous.
Oh oui.
C'était quand la première fois que vous avez...
82. 82-83, on avait joué La vie à deux avec Roger Miremont dans un tout petit théâtre de la rue de la Gaîté qui s'appelait, donc à Paris, qui s'appelait l'Espace Gaîté, qui est devenu un sex shop.
Hey, pas mal.
Après nous, ça...
Qui s'appelle toujours Espace Gaîté, d'ailleurs.
Ouais, peut-être, ça pourrait, hein, ça pourrait. Ouais, j'y jouais, entre autres, ce coup de téléphone qui ne viendra jamais, enfin, ou qui ne viendra pas, ou on ne sait pas s'il va venir. En tout cas...
que l'on retrouve dans la pièce.
Voilà, que j'ai rejoué. C'était très rigolo de retraverser ça 38 ans après. C'était très bizarre de retraverser ce même texte sans m'en souvenir. Je m'en rappelais pas vraiment. Et en même temps, il y avait des réminiscences. Et c'est assez fascinant de rejouer tellement longtemps plus tard un texte que vous avez déjà interprété.
Ce qui est génial, c'est de le remettre dans le contexte. Ce qui est génial, et d'ailleurs c'est même un concept qui pourrait être utilisé pour plein d'auteurs.
C'est ça, il y a un côté conférence qui est super.
Exactement, une masterclass de dire voilà la situation dans laquelle on se trouve, voilà qui est cette personne, voilà ce qu'elle a vécu, voilà comment elle meurt, voilà comment elle se bat, voilà comment elle répond, voilà
dans quel monde elle vit,
son sens de l'humour.
La prohibition, le rapport à l'alcool, moi j'ai trouvé ça génial parce que souvent on nous livre une pièce et si on connaît pas le contexte, on connaît pas l'histoire du pays, on connaît pas les enjeux, ben on apprécie un peu moins le personnage. Et là, ce que j'ai adoré, Zabou, c'est que vous arrivez et vous posez le cadre. Et c'est genre, je vous prends par la main, voilà qui c'était cette nana, et voilà ce qui se passait dans le pays à cette époque-là.
Je vous raconte.
Voilà, et je vous raconte. Et je vous raconte même déjà qu'elle est morte, en fait. Et pourquoi il y a une histoire incroyable avec ses cendres. Mais voilà, tout d'un coup, moi, j'ai compris plein de choses. Par exemple, sur la prohibition. Ben, il y a plein de choses que j'avais pas saisies.
Le rapport femme-prohibition.
Ouais, la consommation d'alcool.
Incroyable, ouais. Incroyable. Mais oui, ben, parce que, évidemment, j'ai traversé plein de trucs. Après, il a fallu que j'en élague pas mal, ce qui était très difficile. Ça s'appelle le choix. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup
de mal.
Ça veut dire il faut savoir dire non.
Voilà. Et ça, c'est le plus compliqué, évidemment. Hein, Nagui, c'est difficile d'arrêter, de dire, bon, oh non, ça fait beaucoup, on va arrêter. C'est très compliqué.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien, jamais. Et là, j'ai dit, si, parce qu'ils vont être fatigués au bout de 3h30 de spectacle. Donc, le spectacle fait 1h20, 25. Et l'idée, effectivement, c'est de donner cette mémoire que moi j'avais, de dire, bon, ok, c'est comme ça. Donc, une fois qu'on a cette mémoire-là, effectivement, quand on entend les scénettes, c'est comme des petites scénettes, on les replace naturellement, quasiment naturellement, comme On a une petite mémoire qui est venue là.
On comprend mieux le texte, les allusions, ouais. On comprend mieux le contexte. Ouais. Vous le jouez différemment de ce que vous aviez fait en 80.
Ah bah forcément, j'ai vieilli hein, quand
non,
même.
Non, je ne parlais pas grand de ça. Je parlais de la compréhension, de la compréhension de Dorothy.
Alors ouais, mais alors l'interprète n'est pas l'auteur ni le metteur en scène. C'est très bizarre. On peut tout à fait ne rien savoir et être très bien interprété. Ça, c'est très bizarre, mais c'est comme ça.
On joue pas différemment quand on sait.
Pas forcément, non. Il y a des acteurs, par exemple, qui sont pas forcément des lumières et qui sont des acteurs éblouissants.
Ah, les a reçus cette semaine.
La liste. Et des acteurs très intelligents. Qui très brillant, très intelligent, et c'est pas parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs. Ça c'est assez compliqué. Parfois même ça peut être bon, c'est pas évident de.
Ça peut être ouais, paralysant.
En revanche, non mais l'interprétation change parce que c'est comme un vin qui se dépose un petit peu quand même. Donc ça passe au cœur. Planchon disait toujours ce truc, ça passe au cœur, c'est-à-dire que ça, il y a pas besoin d'expliquer. Ça va se faire, ça passe un peu plus. Cela dit, c'est, quand je suis sur scène, si je n'ai pas quelqu'un qui me dirige, je suis foutu. Je peux pas faire la maligne. Non mais c'est bon quoi, j'ai fait la mise en scène, ça va. Je vais, bah non parce que l'actrice.
Mais là c'est ce que vous faites.
Ah non, je me fais diriger. Ouais. Je suis dirigée au niveau du jeu. Je peux pas. C'est impossible. Je l'ai fait une fois, plus jamais. Bien sûr qu'on s'en sort pas. C'est impossible. On ne se voit pas en train de jouer et en train de faire des trucs nuls.
En plus, vous faites la lumière quelque part, le décor en même temps, le changement et vous continuez à parler derrière le paravent, vous continuez à nous embarquer, à nous faire rire avec des petites références à l'actualité parce que quand on parle de cette période-là, on pense à la grippe espagnole avec ses masques, avec tous ces, moi je découvre tous ces illustres artistes qui sont morts de la grippe espagnole, Apollinaire, Egon Schiele, c'est complètement fou.
Oui. C'est fou. Et Dorothy qui raconte, parce qu'elle est critique théâtrale et qui parle des théâtres qui se vident ou dont ils arrêtent les pièces à cause de la pandémie. Et elle dit, elle est super vache, hein, mais bon, elle est très 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 harde. Mais elle dit, ça a quand même occasionné une fin honorable à de nombreuses pièces de théâtre. C'est super méchant.
C'est violent, c'est hyper drôle.
Et très très drôle.
Très caustique, bien sûr.
Et c'est bizarre de le jouer aujourd'hui et de raconter ça alors que les théâtres ont été vidés quand même.
Et de faire la vanne grippe chinoise aussi.
Oui, la grippe espagnole qui n'a rien d'espagnol, évidemment. Mais c'est juste que voilà, les journaux espagnols parlaient beaucoup de la pandémie. Et parler moins de la guerre, parce qu'ils n'étaient pas dans la Première Guerre mondiale, c'est tout, c'est la seule raison. Donc ils ont dit, journal espagnol, grippe espagnole, voilà.
Ah ouais.
le regard extérieur, c'est carrément votre fils, ça c'est particulier aussi est-ce qu'il vous dirige ou est-ce qu'il vous raconte ?
Oh non, il me dirige, mais moi j'ai dirigé mon père m'a dirigé, donc c'est assez simple, hein. Je l'ai dirigé. Quand on travaille comme ça, on bosse, c'est
très
simple.
Vous êtes très dans la domination dans la famille quand même.
Ouais, on se dirige tous, c'est la
ça
domination.
Ça va quand même.
Ça se passe pas trop mal.
Quel autre mot à donner que diriger ?
Guider ?
Non, parce que c'est plus que guider, hein. C'est mettre en scène, diriger. Non, diriger, c'est juste.
Est-ce que c'est proposer?
Diriger, c'est quoi? C'est
conduire
donner
avec.
Chemin.
Conduire avec.
Conduire avec. Montrer le chemin, emmener.
Piloter.
C'est un chemin. Hein, quand vous entrez sur scène, on vous donne le petit chemin. C'est comme si vous traversiez une petite forêt. Mais je l'avais déjà dit ça, et je pense à ce même micro et à la même place.
Non.
Donc
à la même heure.
Et aujourd'hui.
Et aujourd'hui. Et en tout cas,
en fait, elle a un décalage.
Vous savez quel trajet vous ferez. C'est-à-dire, vous savez que là, vous ralentissez un tout petit peu. Là, faudra faire un petit peu gaffe. Là, que ça va plus vite. Et vous ne vous voyez pas. Donc, j'ai évidemment besoin. Mais la direction, c'est quelque chose de très et en plus, ça dépend des metteurs en scène. Ça peut être très précis et très attention. Là, faut aller là, là, faut aller là, parce que sinon, on s'en sort pas. Il y a par exemple une des scènes où ils deviennent ivres morts. C'est un couple qui se bourre la gueule. Il y a pas d'autre mot. Et comme Dorothy Parker connaissait bien tous les stades de l'ivrognerie. Donc elle les met tous, les uns après les autres. Alors, d'abord on parle fort, ensuite on s'énerve, ensuite on a trop chaud, ensuite on devient
c'est
parano.
C'est pas la ménopause ça?
Pardon ?
C'est pas la ménopause, ça.
Il y a aussi la ménopause.
C'est un état d'ivresse permanent, la ménopause. C'est pour ça qu'on a hâte.
Quel bonheur.
C'est pour ça qu'on a hâte. Et en fait, ils deviennent donc de plus en plus bourrés. Et ça, c'est tellement difficile à faire qu'on n'a pas pu passer par autre chose que de le faire de manière hyper mécanique. Travailler de manière...
J'ai peur que
De manière réelle.
Non, il n'y a rien. Bah non, sinon, tous les soirs, c'est naze. Bah, un soir où j'ai la grâce, oh, ça se passe bien. Non,
et puis,
faut que ça soit bien tout le temps.
Il y a votre texte, il y a votre écriture, votre manière de ramener tout ça à une proximité. C'est vraiment quotidien. Alors évidemment, il y a des thèmes qui sont malheureusement intemporels, comme le racisme, l'antisémitisme, la place de la femme, les problèmes d'alcool, les histoires d'amour déçues. Et puis, il y a aussi votre regard teinté de tendresse et d'humour sur elle, sur son combat, d'ironie aussi sur la manière dont elle était traitée à l'époque.
Mais oui, au début, elle signait D par cœur au tout début, pour pas qu'on sache si D c'était un homme ou une femme. Bon, donc ça raconte quand même bien des choses. Mais oui, j'ai. Alors, c'est la Dorothy par cœur de.
Et c'était il y a un siècle.
Oui, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on raconte des choses dont on sait qu'on. Bon, la grippe espagnole par rapport évidemment au Covid ou à la, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Donc voilà.
C'est une saloperie, donc c'est le Covid.
Bah, voilà. Mais bon, les tempêtes, je sais plus que c'est toujours des nanas.
C'est enfin,
bon,
bref,
ça m'énerve. Bon, bref.
Ça a changé.
Ça a changé.
Ouais, 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 ouais. Ça a changé.
Revenons à Dorothy.
Alexandra, on a le droit ce prénom ? J'ai plus. Bon, alors, non, je crois que non. Non. Alors, on n'a pas le droit le prénom. Alors, donc.
Voilà, non, mais ce que vous venez de faire là, c'est exactement le genre de vanne sur scène. C'est exactement
clin d'œil à l'actu.
Oui, clin d'œil à l'actu.
T'as la ref ou t'as pas la ref ?
Et ça va super vite. Et vous vous parlez à vous-même. D'ailleurs, c'est un peu folle dingue, hein, parce qu'une heure et demie.
Non.
Oui, quand vous parlez du grand-père Trump qui est mort de la grippe espagnole, vous le citez dans la liste des.
Dans la liste des grands artistes. Voilà. Des gens merveilleux. Et mais oui, il a eu le temps de faire le père de Donald.
Voilà, et vous dites, c'est dommage, non, c'est mal.
Je dis oui, qui a succombé, en parlant de la grippe espagnole, qui a succombé au virus, virgule, lui. Et donc, les gens éclatent de rire, je dis non, c'est pas bien. Mais...
non, mais c'est là où on est à mi-chemin entre la pièce de théâtre, le seul en scène,
le stand-up,
la masterclass, la conférence, comme tu disais,
ouais,
vous racontez, vous nous prenez par la main, et on y est, quoi. Et on y est, on s'intéresse, ou on découvre, si on a connaissait pas cette femme, y compris son combat, y compris ce qu'elle a voulu faire pour Nelson Mandela. Non, c'est Martin Luther King.
Elle a
tout légué.
Elle a fait un truc que personne n'avait jamais fait avant. Enfin, il n'y a pas un blanc qui avait fait ça avant, évidemment.
Alors qu'elle ne le connaissait pas.
Non, elle ne le connaît pas. Elle trouve que sa cause est formidable et elle sait, elle le sait très bien, que le nerf de la guerre pour les gens qui sont dans des causes très compliquées ou dans des minorités, c'est l'argent. Donc elle va léguer ses biens. Au départ, elle n'en a pas beaucoup, sauf que ses droits littéraires vont être énormes. Donc elle lègue ses biens à Martin Luther King. Quand elle décède, elle, il va être assassiné très peu de temps après, mais elle avait stipulé que quand il mourra, ça ira quand même à la grande association NAACP.
La suite sur scène, et il faut se dépêcher parce que vous jouez encore 3 semaines, c'est ça ?
Oui, et vous savez quoi ?
Non.
Eh ben, je vais vous dire un truc. Parce que quand même, j'aime bien parler comme ça, d'un coup. Eh ben, demain soir, je pars de la Porte Saint-Martin pour une soirée, et je vais jouer à Antibes. Pour une soirée.
Super théâtre, Antibes.
Mais je les adore. Et je reviens vite à la Porte Saint-Martin, que j'aime tellement.
Ouais,
donc vite, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 23 octobre.
Oui, oui. Vite. Non, le théâtre d'Antibes, porté par un homme, par un acteur, metteur en scène, justement, directeur, programmateur.
Daniel Benoît,
formidable, Daniel.
Coproduit tous mes spectacles, et j'allais dire les yeux fermés. C'est-à-dire que quand je lui dis, Daniel, voilà, j'aimerais bien. Il me dit, ah bah oui, bah évidemment, je coproduis. C'est-à-dire que c'est.
Non, mais c'est un mec.
Vous avez des dossiers sur lui ?
Non, mais c'est.
Je l'adore.
C'est un mec. C'est un mec. C'est pour ça que je voulais qu'on le cite. qu'on le cite parce
qu'il
compte énormément pour les gens du théâtre, mais c'est surtout un amoureux du théâtre qui prend des risques, qui va dans des domaines où d'autres n'iraient pas. Et surtout, il y a des spectacles entiers qui n'existeraient pas si Daniel ne les soutenait pas et ne les produisait pas.
Ah, c'est insensé. Sa programmation est dingue.
Ouais.
Et c'est plein, son théâtre est plein.
Il est fort. Oui,
il est super.
On l'embrasse.
Oui.
Alors, on vous embrasse et on est ravis de vous accueillir, Zabou Breitman. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Gagnon. Elle ne vous aime pas, Morgane. Elle ne vous aime pas.
Zabou Bretman.
Sur ce
franchement, je vous aime pas. Et vous savez quoi? Vous avez du culot de revenir ici à côté de moi, quoi. L'année dernière, je vous ai expliqué que je vous aimais pas parce que vous étiez jury au concours d'entrée de conservatoire. Et que contente de m'avoir recalé comme un mec en Sergio Tacchini devant une boîte de nuit, vous m'avez mis la pire note possible. Une note si basse que je me suis fait mal en bas du dos en la regardant. Et ça serait tellement plus facile pour moi d'être de mauvaise foi, encore une fois, et de dire que de toute façon, en tant qu'actrice, vous êtes pas ouf non plus. Mais bordel, Zabou, je l'ai vu, votre pièce. Et c'est trop vous demander d'être à chier au moins une fois dans votre vie, quoi. Mais non, Madame Bretman, faut qu'elle assure. La médiocrité, elle laisse ça aux autres. Allez, viens, Daniel, remets ton slip, on s'en va, on veut pas de nous ici. En plus, honnêtement, la mauvaise foi, vous me connaissez, si ça existait en discipline aux Jeux Olympiques, je croulerais sous l'or, moi. Je serais plus médaillée que le maréchal Pétain. Et dans la finale de remettre ses échecs sur les autres sans jamais se remettre en question, Morgane Cadignan, pour la France, obtient la note de 185 sur 10. Mais vous savez quoi? Terminez le mauvais esprit. Terminez la mauvaise foi. Tenez, je commence maintenant. Je ne vais même pas avoir la mauvaise foi d'essayer de nier le fait que depuis le début de cette chronique, je refais la même que l'année dernière. Vous voyez? J'avoue! Je recycle pas mes déchets, faut bien que je recycle mes chroniques. Prends ça, la planète. Aujourd'hui, je vais faire amende honorable. J'avoue, premièrement, par grandeur d'âme. Et surtout, parce que je n'ai absolument pas le choix. J'ai dit à Nagui, moi par contre, j'annonce, hein, si on invite Zabou Bretman, je vous préviens, je démissionne. Il m'a dit, Morgane, n'oublie pas ton casque. Puis je l'ai vu la pièce, et j'ai vu votre coiffure dedans, et j'estime que vous avez été assez puni, comme ça. Donc, on est réconciliés dans Dorothy Parker, vous êtes seule sur scène, et ça déjà bravo, parce que pour le faire aussi, je sais que c'est pas évident, quand t'as été un peu à côté un soir, c'est dur de remettre la faute sur le régisseur ou sur le public, même si parfois en fin de semaine, j'arrive sur le plateau avec cette tête. Donc franchement, s'ils veulent pas rigoler, c'est qu'ils veulent pas, quoi. Puis, vous n'incarnez pas, on l'a dit, n'importe qui, Dorothy Parker, une des femmes les plus influentes du début du 20e, donc forcément, ça en jette. Parce qu'un seul en scène sur quelqu'un qui a pas marqué l'histoire, bon, 1h45 de spectacle sur Chantal Pasquet, ma podologue, Jean-Robert Charrier. Jean-Robert, on t'adore, hein, il est curieux, mais peut-être pas à ce point-là.
C'est Jean-Robert Charrier. Ouais, c'est ça.
Une femme libre et unique, un esprit vif et acéré. Je parle de Dorothy, hein, calmez-vous, Zabou, je vais être sympa, mais faut quand même me donner un peu de temps. Dorothy qui publiait des nouvelles dans le New Yorker, mais attendez, ça voudrait dire que quand tu dis ce qui te passe par la tête dans un grand média de manière récurrente, à une époque de ta vie, tu peux être interprété sur scène un siècle plus tard par Zabou Bretman. Et ben, je vais commencer officiellement à m'appliquer.
Et Morgane du jeudi au samedi sur scène à 20h au Métropole.
Tout à fait.
Voilà, en forme.
J'aime bien parler de Jean parce que quand on a parlé de Daniel, Jean dans son théâtre à la Porte Saint-Martin, c'est pareil, il fait des trucs qu'on n'imaginerait pas une seconde dans un théâtre privé.
Jean, on t'aime.
Oui, Jean.
Ouais, c'est vrai. Je l'avais bien dit la première fois le nom. Oui. C'est parce que vous m'avez coupé que j'ai rebugué après.
Mais oui, je l'ai dit après. Laissez-la tranquille. Et dans son théâtre, sa programmation est complètement dingue. Et c'est complètement fou d'oser autant.
C'est bien de parler de ces gars de l'ombre comme ça, qui soutiennent et qui, au-delà de produire, et on se dit, OK, c'est un truc de financement, ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est des histoires d'amour, de respect et des histoires artistiques qui sont impossibles à décrire tellement ils apportent.
Et c'est aussi une prise en compte du public, c'est comment faire venir des gens au public. Et je trouve que Jean, depuis toutes ces années, à chaque fois, a trouvé la bonne formule pour concilier, récupérer des spectacles qui étaient dans le théâtre subventionné et venir les produire chez lui à la Porte Saint-Martin et donner du coup, c'est vrai que c'est des spectacles qu'on n'exploite pas forcément beaucoup dans le public, de les voir là, d'ouvrir, voir des pelis sur scène, voir des mises en scène absolument géniales. Et moi, je trouve que c'est la meilleure formule pour réconcilier tout le monde.
Le théâtre de la Porte Saint-Martin et Antea d'Antibes sont servis par cette émission. Maintenant, je voudrais revenir au combat de Dorothy.
Le combat de
Dorothy. Elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle était engagée.
C'est-à-dire, en fait, vous savez quoi, j'avais écrit mon truc, un peu c'était bien, et puis j'ai continué à lire des articles en me disant, bon voilà, il y a des gens qui la connaissent mieux que moi, évidemment. Donc j'ai lu, et tout à coup, je suis tombée sur un article qui disait, mais attention, ce truc qu'on dit tout le temps, elle est engagée, elle aurait détesté ce truc-là, quoi. Elle n'aurait pas aimé l'étiquette.
Alors qu'est-ce que... Oui, d'accord.
Mais... Non, la posture, elle aime pas la posture, elle aimait pas la posture. Elle peut faire les blagues qu'elle veut,
C'est la liberté, pas l'engagement, c'est la liberté. Elle peut dire ce qu'elle veut.
C'est la liberté.
Et penser ce
que l'engagement, il est... l'engagement, il est profond. La morale est profonde.
Pardon,
non. La morale est forte. C'est pas c'est pas c'est on lègue tout à Martin Luther King, mais parce qu'on oublie juste un truc, ça fait un scandale hein, à l'époque.
Bah oui.
Un scandale.
Qu'une blanche femme
blanche ouais, ouais, non, ouais. Mais c'était complètement dingue.
Elle a un côté un peu Françoise Sagan aussi, ouais, j'ai l'impression dans ce côté à la fois très festif, très caustique et très très bien installé dans les speakeasy, dans la qui navigue un peu partout.
C'est ça, ouais, c'est la fête et ouais. En même temps, c'est une fête absolument désespérée
ouais,
quand même. Hein.
Ouais. Parce que voilà. C'est une grande amoureuse en fait.
Ouais, c'est une grande amoureuse. Ouais. Il y a un côté Piaf dans son, ouais. Dans cette. Ça, oh là là, il y a.
Ouais.
C'est pas. Je veux dire, quand on me dit oh là, c'est marrant, t'es émue le soir dans cette dernière scène, ouais. Scène sur le coup de téléphone et c'est pas compliqué d'être émue. Ce qu'elle dit est tellement bouleversant sur l'amour et sur le désespoir et le. Je veux dire, elle essaye à tout prix et pourtant c'est drôle et les gens rient. Mmh. Oh, c'est très bizarre parce qu'ils rient et en même temps ils sont mal à l'aise. Mais c'est
oui,
parce qu'elle est désespérée.
Ils se reconnaissent aussi.
On a ça tous, pleure aussi. Hein, ça
on a tous vécu ça. Ouais. Cette scène-là, elle est formidablement bien racontée aussi, ouais. Mais
l'incantation au téléphone.
Mais oui, évidemment. Et puis après dire, mais attends, est-ce que c'était pas moi qui Si, c'était moi qui aurais dû appeler.
C'est terrible.
Là, tout
c'est
le
pareil,
questionnement.
Alors, là, au niveau du jeu.
D'un simple coup de fil, partir ouais, sur autant de sentiments.
Quand Antonin, donc Chalon, m'a dirigé sur le coup de téléphone, c'est un truc en boucle, c'est-à-dire que ça revient, c'est comme les coyotes, là. Ça fait toujours. Donc, on ne sait pas pourquoi on retiendrait ce mot-là et pas ce mot-là, c'est toujours le même mot, au même moment. C'est un enfer à apprendre, un enfer. Donc, là, c'est du travail au niveau du jeu. Qui est monstrueux, quoi. Monstrueux, parce que c'est très léger, c'est très délicat, et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient que c'est à ce moment-là qu'elle dit ce mot-là, et pas le moment d'après, c'est-à-dire ouais. Que c'est un travail, en fait, pour que ça ait l'air très, très, très léger, qui est monstrueusement dur, je trouve.
Je vais coter jusqu'à 500, de 5 en 5, pour vous annoncer Florence Mendès.
Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis les bêtes. Alors peut-être autour de la table, avez-vous des animaux de compagnie? Je sais qu'ici, à la bande originale, vous avez Fanny Ruet. Pour ma part, j'ai un chien. J'ai un chien et un enfant. Notez que je préfère les chiens, déjà parce que ça parle pas et parce que ça vit moins longtemps. Je plaisante, mais il est bête. Mon fils, il me dit souvent, je sais que tu préfères le chien, alors que franchement, je les aime autant l'un que l'autre. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'il y a quelques jours, le Sénat a adopté une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale, tout en y apportant des modifications très décriées parmi les défenseurs des animaux. Par exemple, exit l'interdiction pour les parcs aquatiques de posséder des dauphins. Alors j'avoue, ça m'échappe, mais désolé, hein, mais les dauphins, c'est quand même des grosses crevures. On sait qu'ils ont entre autres des comportements de violeurs, et nous, on veut aller nager avec eux. Nager avec des violeurs, c'est comme faire du jardinage avec Émile Louis. Voilà. Bref. Exit aussi l'obligation de faire stériliser les chats errants. Alors là, je suis d'accord, il y a plus urgent, faut d'abord faire stériliser les candidats de télé-réalité. Et là, encore, je comprends pas tellement ce que les gens aiment chez les chats. Voilà, quand tu rentres chez toi et que t'as un chien, il t'accueille, il est content de te voir, tandis qu'un chat, il est là, salut, tu vas bien? Ah non, en fait, je viens de me rappeler, j'en ai rien à foutre. Et puis les chats, ils me détestent. Vraiment, les chats me détestent. Puis, mais non, Florence, regarde, ils t'aiment bien, ils se frottent contre toi. Oui, bah, comme les mecs dans le métro. Alors avec les chats, c'est encore pire. Vraiment, il y en avait deux chez mon ex qui me regardaient toujours l'air de dire, tiens, t'es encore là, toi. Les chats aussi, d'ailleurs. Je me souviens. Il y en avait une des deux qui était en chaleur, c'était l'enfer, vraiment l'enfer. Des heures de miaulements aigus et traînants, on aurait dit que dans la pièce d'à côté, il y avait un concert de Saez. C'était insupportable, vraiment insupportable. J'ai dit à mon ex, soit tu la stérilises, soit tu vas la niquer toi-même, mais il faut faire un truc vraiment à ce stade-là. Et puis, franchement, si t'es d'un naturel un peu dépressif, mais prends un chien, pas un chat. Ton chien, rien que par sa joie, il te rappelle chaque jour à quel point la vie est belle, tandis que le chat, tu te balances au bout de ta corde et il est là, il joue aux cartes avec ses autres potes chats et te lâche, hein. Dit Karine avec les copains, on se demandait c'est quand encore que t'as cessé d'y croire? Voilà, pardon, je m'énerve. Je sais, il faut que je reste calme, mais il n'y a rien à faire. Je préférerais toujours les chiens. C'est eux qu'on prend pour sauver les gens. T'imagines, un chat d'avalanche. Il trouverait un type sous la neige. Il le regarderait en mode, c'est froid, hein. Et puis, il lui mettrait son trou de balle dans la face. Voilà.
Oui,
t'imagines, t'es seul chez toi, tu fais un AVC, mais ton chien, en deux secondes, il a appelé les secours. Ta mère décommandait ton rendez-vous chez le coiffeur et il t'a trouvé une place en centre de rééducation. Ton chat, il est là. Ben oui, je vois bien que tu convulses. Chantal Mantin, ma gamelle, elle va pas se remplir toute seule. Hein, voilà. Non, vraiment, je préfère les chiens. J'aime tellement mon chien que je veux lui offrir une belle vie et évidemment une belle mort. D'ailleurs, à ce sujet, c'est bizarre quand même. En France, on euthanasie les animaux, mais pas les gens. On veut pas que nos chiens souffrent inutilement, mais on laisse faire pour nos humains. En même temps, on n'a jamais vu un tétraplégique aller rechercher la balle ou remuer la queue. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
Et Florence, tu es donc
violente.
Tu es sur scène tous les mardis à la Petite Loge à Paris et le vendredi 8 octobre au Spotlight à Lille.
C'est ça, on est 7, donc venez, s'il vous plaît.
Ouais, c'est mieux, chiffre pair.
Vous êtes plutôt chat ou plutôt chien?
Chat.
Bah non, mais laisse ça répondre.
Bah non, mais je sais pas, les chats, oui, j'aime bien les chats, ouais. C'est vrai. Mais en fait, ça m'est égal, n'importe.
N'importe?
Ouais, ceux qui sont sympas.
Non, mais en tout cas, très bien vu, Florence. Ayant et chat et chien, t'as totalement raison.
Ce qui arrive souvent dans ma vie.
Notamment sur le trou de balle. que le chat vient régulièrement te présenter en disant ben non, quoi.
J'essaye d'arrêter ce sentiment.
Ça va pas être possible.
Bonjour.
Non, et alors tu sais que quand il se frotte à toi, ça veut pas
il
dire caresse-moi.
Les phéromones.
Exactement.
Tu
m'appartiens.
Bien sûr.
C'est ça.
Le combat de Dorothy Parker, ou les combats de Dorothy Parker, ils en ont un en commun, enfin il y a une valeur en commun de tout ça, c'est la liberté. Que ce soit sur l'antisémitisme, le racisme ou la place de la femme dans la société, c'est surtout ça, c'est la liberté et le respect.
Ouais, c'est la parité en fait.
Ouais, dans tous les domaines qu'elle aborde.
En fait, pour elle, c'est une évidence la parité, une évidence, quelque chose de... Il y a une autre chose qui est très importante pour elle, c'est la culture, je pense. C'est vraiment l'éducation et la culture. Et pour elle, l'éducation, c'est une chose fondamentale. Elle a été très malheureuse, ses parents sont morts quand elle était très jeune, et elle a dû travailler très tôt. Et c'est pour ça qu'elle est devenue en fait journaliste. Mais elle aimait faire des études. Elle voulait être une grande.
Quelle valeur voulez-vous transmettre avec cette pièce?
Quelle valeur?
Ouais.
Aucune, rien. Venez voir mon spectacle.
Rien, le but, c'est de faire de la thune,
quoi. La valeur, c'est en fait, vous savez quoi? L'idée, non mais vraiment l'idée de base, c'est de la faire connaître, quoi. Ouais, ouais. Et les gens.
Oui, mais pour.
La faire connaître, parce que c'est une grande poétesse.
C'est une grande oubliée de l'histoire, comme beaucoup de femmes. Hein.
Et une grande oubliée de l'histoire, ouais. Oui, absolument. Elle a raison, Léla. Absolument.
Elle a toujours raison,
Léla. Non, il faut la connaître. C'est pas possible de pas connaître Elle a sa plume est exceptionnelle et surtout
elle est connue. C'est elle qui a écrit A Star Is Born, par exemple. On l'a oublié.
Elle a co-écrit A Star Is Born. Voilà. D'ailleurs, quand on connaît le scénario, on voit cette histoire d'un type hyper alcoolo et on se dit que bien sûr elle la connaît cette histoire-là. Ils ont été nommés aux Oscars pour ce scénario. Elle est très rapide, mais alors le problème.
Elle a travaillé pour Hitchcock.
Oui, mais
pour
le problème qu'elle a eu, c'est que très jeune. Ouais, mais elle était. Donc, la jeunesse cachait cette dépression énorme qui n'a pas été facilitée par l'alcool. Après, on ne sait plus ce qui fait quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue tellement noire et cynique à la fin qu'elle disait d'elle-même que ce qu'elle écrivait ne valait pas le papier sur lequel c'était écrit. Donc, elle était totalement désespérée, mais comme des grands poètes, quoi. Donc, il faut la connaître en tant que poétesse. L'autodérision... C'est-à-dire qu'elle est très vache.
L'épitaphe tellement drôle.
Oui, excuse my dust. En fait, elle avait blagué.
Pardon pour la poussière.
Elle avait, alors, il faut expliquer, elle avait demandé à être incinérée et que sur la plaque, entre guillemets, commémorative, il est écrit « Désolé pour la poussière ».
Alors ça, c'est Kevin Fitzpatrick, le fameux guide touristique qui a eu l'idée d'écrire ça sur sa plaque. C'est un guide touristique. Et grâce à lui qu'elle a été réenterrée, parce que l'histoire commence par ses cendres, parce que ça a mis 48 ans avant qu'elle soit vraiment réenterrée dans une sépulture digne de ce nom.
Oui, et puis elle s'est baladée entre Baltimore, New York.
Ah, s'est baladée dans. Elle a même été 15 ans dans un meuble de bureau, quoi. Il y a un avocat qui a mis ça dans un meuble, parce qu'il l'a connu. Il a mis ça derrière les petits dossiers.
Il
ne
sait pas quoi faire de l'urne.
Non, il ne sait pas trop quoi faire. Et donc, quand elle a dit Excuse my dust, mais c'est visionnaire, quoi. C'est complètement prémonitoire, c'est complètement dingue. Comme les très grands artistes. Et c'est une femme qu'on doit connaître. Et j'avais envie d'évoquer suffisamment cette femme pour qu'on ait envie de la lire. Et j'adore quand les gens à la fin.
Et ça fonctionne.
Mais oui, les gens disent, je ne connaissais pas, mais j'ai acheté. Et ça me touche, je trouve ça assez bouleversant de se dire, si je peux aider juste à la faire connaître un petit peu, ça serait pas mal.
Bah, écoutez, moi, j'ai pas vu la pièce encore, et ça me donne envie vraiment d'en savoir un peu plus sur cette.
Bah oui, parce que vous aimez bien qu'elle soit un peu vacharde aussi.
Tout à fait. Au théâtre, ça, c'est parce que je suis aigrie.
au théâtre de la Porte Saint-Martin, Zabou Breitman dans Dorothy.
Frank Sinatra.
Non. Benny Goodman.
Benny Goodman.
Et ça, ça fait partie de la bande originale de cette pièce. Justement, la musique dans la vie de Zabou, on recevra tout à l'heure Claire Delahaye, qui est maîtresse de conférence en études américaines à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, ou qui a publié des travaux sur la politique étrangère américaine, le droit de vote des femmes et donc la place de Dorothy Parker. On en parlera avec elle. Mais d'abord, en 87, vous écoutiez... C'était la période Arnaud Turbus aussi, un tout petit peu, ça.
Ouais, et c'est la période de Planchon, où je jouais Planchon. Mais je jouais Dandin. N'importe quoi. Mais ça, c'est pas un remix. C'est un remix, ça. Hein.
Non.
Si ? Non ? C'est vraiment le truc de base. J'ai l'impression qu'il est plus édulcoré, le premier. Il n'y a pas tous les bon, non ? Je sais pas. Oh, j'adorais ça. J'aimais bien le clip où il roulait sur lui-même.
C'est ça.
Oh, j'adorais. Mais c'était super, ça.
On est en 87, vous êtes sur scène dans Georges Dandin, mise en scène par Robert Planchon.
Roger oui.
Plutôt bon. Robert, Roger.
Oh, plus le Roger.
Roger.
Mmh, pas mal.
Et vous dites qu'il y a deux sortes d'acteurs, les instinctifs et les cérébraux. Vous êtes dans quelle famille ?
Il faut un peu les deux, on va dire. Il faut un peu les deux, parce que si vous restez cérébral, c'est très sympa, mais il faut des sous-titres, d'accord, pour le spectateur. Et si vous n'êtes qu'instinctif, parfois, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, à la limite, ça veut rien dire. Il faut vraiment un mélange des deux, je pense.
Ça met du temps à le découvrir, ça, qu'il faut ce mélange.
Et puis, c'est jamais découvert, je pense.
C'est vrai ?
Non. Ouais. Jamais. Non. Il faut repartir de zéro à chaque fois. Et on a des petites habitudes, on va dire, des réflexes. C'est pas pour ça que c'est bien. Ouais. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de modestie et d'humilité à chaque fois pour redémarrer, se dire mais merde, pourquoi j'arrive plus à le faire, ça ?
Ouais.
Parce qu'il faut le retravailler.
C'est ce que vous avez appris aussi avec Roger Planchon ?
Tout le temps. Ouais. Retravailler et.
Mais se remettre en question, c'est douter ou c'est.
Douter, bien sûr. Ouais. Et en fait, des metteurs en scène comme lui, qui indiquaient énormément par les positions, par les places, par les déplacements, par le corps, en fait, c'est formidable. Quand vous savez comment marche votre corps, ça marche très bien aussi pour le jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste fait pour déplacer la tête de pièce en pièce. Hein. Ça raconte plein de trucs, en fait.
Je vais revenir sur le doute, parce que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, le doute est paralysant par moments et pas dans votre métier. Le doute est plutôt un moteur.
Ah, il faut qu'il soit là, mais il peut être paralysant.
D'accord.
C'est très drôle, il y a des gens qui me disent « Oh oui, puis t'as l'air tellement tranquille sur scène. » Ce que j'adore, c'est que s'ils voyaient la toute petite Zabou à l'intérieur, qui est en sueur, les cheveux plaqués...
C'est pas vendeur.
Merde, faut pas qu'ils la voient.
Non.
Donc ils voient quelqu'un qui est un peu comme ça, et je suis, mais vous pouvez même pas... Je suis liquéfiée, terrorisée.
Et vous y retournez pourtant.
Ouais, avec parfois des angoisses telles que... Parce que, ce qu'on disait sur la fluidité, pour acquérir la fluidité, il faut que ça se voit plus. Et pour pas que ça se voit, il faut travailler tellement qu'on voit plus le travail. Et si on le voit, c'est qu'on n'a pas assez bossé.
Comme les danseuses à l'opéra. C'est-à-dire qu'elles sourient sur des pointes en saignant, quoi.
Ça a l'air fastoche.
Oui. C'est ça.
Il faut que ça ait l'air fastoche.
Travailler à mort la spontanéité.
C'est exactement ça.
Ouais.
C'est soit spontané.
Travaille-le.
Travaille la
Mais on va le répéter.
C'est ça.
Mais il a raison, c'est exactement
très bizarre, ça. Très bizarre.
En 2001, vous écoutiez Dido Eminem. Dear Slim, you still ain't called a role. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. Could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you. 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you.
Et en 2001, vous passez à la réalisation, Zabou, avec ce souvenir des belles choses que vous avez coécrit avec votre père. On parlait de cette histoire de famille entre Antonin, votre papa. Quand ça s'est présenté à vous, on parlait d'angoisse, de stress, être à la tête d'un tournage. Voir débouler tout le matériel, toute l'équipe technique, c'est se dire qu'on n'est plus simplement face à sa feuille, qu'on a une responsabilité.
C'est ça. Et ça a été la responsabilité, elle est venue, la conscience, parce que j'ai une sorte d'inconscience au moment où je fabrique, mais la conscience est venue avec tout ce qui était concret, c'est-à-dire des camions et des gens, et 50 personnes qui vous regardent, et qui vous dit et qui attendent que vous leur donniez des consignes. Et là, vous sentez que c'est à vous de parler. Et le problème, c'est que quand vous fournissez pas, vous avez l'impression d'être en... Moi, en tout cas, pardon, ça ne concerne que moi, mais j'ai l'impression d'être en deçà.
Ouais. Et quel rapport avec cette mélodie ?
Parce que je l'écoutais souvent dans la voiture en allant. Et que je trouvais, en allant au tournage, j'aimais beaucoup le... J'aime beaucoup le mélange des deux voix, en fait.
La douceur de Dido et le ton d'Eminem.
Et je trouvais ça assez étonnant. Quand j'ai entendu ce morceau, je me souviens que je me suis dit, il y a quelque chose dans ce morceau d'assez surprenant et d'assez doux, d'assez beau.
Vous êtes Dido sur un tournage quand vous dirigez ?
Les deux. Alors, les acteurs, c'est très simple, hein.
Je les emmerde.
Les acteurs, c'est très simple. Si vous n'êtes pas avec... Si l'acteur, au moment de tourner, n'est pas bien, il va rien faire. Donc, votre intérêt, c'est quand même qu'il soit bien. Donc, et par un intérêt commun, d'accord, pour le tournage, et parce que c'est tellement plus intéressant de trouver le bon vocabulaire pour un acteur, je suis avec, quoi. Tous les acteurs ne demandent pas la même chose, mais évidemment.
Quelle est la frontière entre être directrice d'acteurs et les diriger, ordonner des choses et être...
Mais diriger, c'est pas ordonner. Hein.
Et être, ouais, justement, j'y arrive. Être dictateur, être autoritaire.
Mais quand vous prenez un acteur, par exemple, c'est pas une coquille vide. Vous prenez un.
Bon, à part certains. Lesquels.
Quand vous prenez un acteur, c'est pas une coquille vide. Il arrive avec des bagages. C'est pour ça que vous l'avez choisi. L'idée, c'est. Bon, il a une couleur, cet acteur. Mm. Bon, vous apportez votre couleur. D'accord. Et l'idée, c'est que les deux couleurs se fassent une troisième qui marche bien. C'est ça l'idée. Donc, quand vous avez choisi un acteur, vous l'avez choisi pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, qu'il n'aura pas à jouer. Donc.
Oui, mais une troisième couleur qui marche bien selon vos critères.
Bien sûr.
Que les deux se mélangent, mais vous gardez l'ascendant.
Bah, on garde la mise en scène. Si on n'a plus de mise en scène.
C'est ce que je dis.
Et sinon, l'acteur ne fera toujours que la même chose.
Donc, il y a quand même un rapport de domination.
Il y a une hiérarchie, en tout cas, dans la décision finale.
Le mot de domination n'est peut-être pas juste.
Le mot vous plaît pas, mais c'est le résultat.
Non, c'est une connivence.
Il y a une idée précise.
C'est ça, il y a une idée précise et c'est une connivence. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord.
Non, il faut que tout le monde soit d'accord avec vous. Puisque c'est vous qui dirigez.
Non, mais quelqu'un a le final cut, de toute façon.
Tu te tais.
Non, il faut que la personne. Non, il faut que ça passe au cœur. Si la personne n'est pas d'accord.
On
et ne le sent pas. Il n'y a plus d'écho avec elle-même. Si vous lui donnez une indication qui ne rentre pas, le vocabulaire n'est pas le même pour tous les acteurs, ni la longueur de l'explication.
J'ai compris ça, sauf que quand vous êtes à tôlière sur un plateau...
Non, vous pouvez changer. C'est-à-dire que j'ai une idée, d'accord ? Imaginons. Non, mais ça, on va être concret.
Ouais.
J'ai une idée de ce que je veux. Et puis l'acteur va proposer quelque chose qui n'est pas ce que je veux, évidemment. Ce n'est pas la musique que j'entendais. Donc, soit il n'est pas très loin de la musique que vous entendiez et vous arrangez pour que ça colle un peu plus à la musique que vous entendiez, soit ce n'est pas du tout la musique que vous entendiez, auquel cas vous vous adaptez. Mais non, c'est ça. Diriger, c'est aussi s'adapter à qui vous avez en face.
Donc, zéro, jamais aucun acteur ou actrice, vous l'avez viré du plateau en disant « ça ne va pas le faire, on ne s'entend pas, on arrête ».
Non, mais par exemple, un acteur, un grand acteur connu.
Bernard Campan.
Il n'était pas connu, il n'était pas connu comme acteur au moment de.
Ouais, c'est vrai.
Il me disait qu'il savait rien faire.
De se souvenir.
Ça, c'était génial. Ouais. Se souvenir. Alors Bernard, il me disait, je ne sais rien faire. Ça, c'était génial. Il y a eu une scène et il me dit, je ne sais pas me mettre en colère. Ça, c'est formidable. Il dit, je ne sais pas me mettre en colère. Je ne peux pas. Et je lui dis, mais c'est pas toi qui te mets en colère, c'est ton personnage qui se met en colère. Donc normalement, ça devrait aller. Il me dit, d'accord. il faut trouver le bon mot. Au bon moment, parce qu'il y a ça aussi, une question de moment. Vous savez bien, c'est pas. Et si la personne ne peut pas, eh ben, on tord les choses jusqu'à ce que ça ait une couleur qui n'est pas celle que vous aviez imaginée, mais qui est aussi intéressante. Donc, c'est là.
Et donc, vous arrivez toujours à vos fins.
Oui, mais, enfin, je pense, ouais. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les acteurs. Hein. Je les aime énormément. Ça compte, hein. Ça compte. Il y avait un grand acteur qui faisait, entre guillemets, ce qu'on appelle le minimum syndical, d'accord ? C'est-à-dire qu'il était génial dans sa scène. Génial, puisque le mec est très fort. Bon, il est très fort.
Ouais.
Et je sentais qu'il pouvait aller plus loin, mais que au niveau, mais qu'il fallait que j'aille un peu taper dans son intimité. Gentiment. Et je savais que si vous le fournissiez trop en vocabulaire, il y a des gens qui se referment comme une petite huître. C'est fini. Donc, il faut trouver le moment. Et je lui ai juste dit, c'est super, mais je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. Et il n'était pas content, parce que ça le met en danger. Non, pas vexé.
Il sortait de sa zone de confort.
Il sortait de sa zone de confort. Or, c'est quelqu'un qui sait. Et je lui dis, je sais, en fait. Et je lui dis, je te demande quelque chose d'un peu difficile parce que ça sera un peu plus douloureux. Mais parce que c'était une scène, une grande scène, dure à jouer. Et puis, il a dit, OK. Et il fallait pas parler trop, par exemple. Mais par exemple, il y a d'autres acteurs qui demandent à ce qu'on leur parle beaucoup. Qu'on leur donne beaucoup, beaucoup d'infos. Et d'autres, non. Et vous savez que si vous donnez trop de choses, vous les tuez, c'est mort. Vous allez les... Parfois, il faut beaucoup, parfois, il faut pas trop.
On ne saura jamais qui c'était.
Non, on ne saura jamais qui c'était. Et quand il a fait la scène, moi, je suis un très bon public.
Scène
cette scène, je pleurais comme un veau devant lui, j'étais en larmes. Et il m'a dit, je pense que tu es contente.
En 2013, vous écoutiez Stromae.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
Et en 2013, la Comédie Française s'ouvre encore un peu plus, vous propose de mettre en scène une pièce, vous choisissez le système Ribadier de Feydeau, une pièce. Est-ce qu'on peut pitcher juste la pièce ?
Mais tellement efficace surtout.
Comme d'habitude, contrairement à ce qu'on imagine, les hommes chez Feydeau sont des imbéciles. C'est les hommes, hein, les imbéciles, hein, des imbéciles.
Caricature
chez Feydeau.
Minables. Mais c'est plutôt ça, Feydeau. Hein, c'est les hommes qui l'attaquent, hein, je trouve. Et qui endort sa femme.
Qui est jalouse.
Il endort toujours les gens, hein, ouais. Feydeau, il adore. Donc il meurt un tout petit peu. Et pour aller courir ailleurs. Et c'est ça son système. C'est un système, bon voilà, improbable. Système Ribadier. Il y a toujours un système. Il y a toujours des systèmes. Hein. Pour défier la mort et qui va se faire choper et qui va devenir c'est sur le mensonge, on ment, il trafique la réalité en permanence, c'est ça, enfin il joue tout le temps sur la réalité et sur ce qu'on croit et sur ce qu'on voit. Et donc le mec, c'est un maître de...
C'est un moment doublement fort parce que c'est à la fois un travail avec votre papa et en tout cas c'est votre papa qui vous avait
ah oui. Qui m'a
Initié à Feydeau.
Fou de Feydeau.
Et Comédie Française, c'est-à-dire que d'un coup,
et Comédie Française et Laurent Lafitte.
Avec l'entrée de Laurent qui venait juste d'entrer à la Comédie Française.
Voilà. Et Laurent Lafitte m'avait raconté que pour entrer au conservatoire, il avait passé la scène du mensonge du système Ribadier. Et j'ai vu, en regardant sur à la Comédie Française, que jamais ça n'avait été joué à la Comédie Française. Et donc, quand je l'ai proposé à c'était Muriel Mayette, elle m'a dit, super. Et donc, on a fait le système Ribadier. Ça a été un... Mais c'était... Oui, c'était vraiment génial. Avec Laurent Stocker, avec Julie Sicard. On s'est mais tellement éclaté. Mais c'était difficile. Parce que Feydeau, ça rend fou. Hein. Ça rend fou les acteurs, Feydeau. Parce que... C'est
tout est précis.
Oui. Ouais. Les mots à apprendre.
Ouais, c'est ça.
Et si vous changez
le rythme,
un mot,
ouais, ça casse tout.
Ou une ponctuation, c'est moins bien. C'est juste un tout petit peu moins bien. Et il devenait dingue. Ça rend fou. Hein. Apprendre Feydeau, ça rend dingue parce que c'est d'une précision diabolique.
Et les didascalies sont si précises. Feydeau, c'est exactement dans quel tempo il l'a écrit et ça doit être joué.
Ouais. C'est ultra précis. Donc ça rend fou. Les acteurs.
Et metteur en scène aussi, j'imagine.
Ah non, mais ils étaient tellement tous fabuleux, quoi. Fabuleux, avec le décor de Jean-Marc Stélé, qui était tellement beau. Tout était de guingois, tout était de traviole.
On parlera d'ailleurs, tiens, on n'a pas suffisamment parlé de la mise en scène, entre guillemets, de Dorothy aussi, du décor, des costumes, du jeu de lumière. On va en parler dans quelques secondes. Mais d'abord, revenons au sujet. Et à la place de Dorothy Parker, avec vous, Claire Delahaye, bonjour.
Bonjour.
Merci pour venir à ce micro. Maîtresse de conférence, je l'ai dit. La place de Dorothy Parker dans le combat féministe est reconnue. Elle a sa place.
Alors, en 1956, Dorothy Parker donne une interview au Paris Review.
L'humiliation de l'accent, merci. Hein. Comment elle m'a calmé.
C'est beau de l'entendre. Vraiment bien prononcé.
On l'a entendu une fois, vous recommencez. Ouais,
Dorothy Parker, comme tout le monde.
Je me crois à la maison avec ma femme.
Parker, c'est incroyable.
Dorothy. C'est pareil, pareil. À la maison, c'est pareil. C'est pareil.
Alors, en 56, moi, je veux savoir ce que j'ai passé.
Vous connaissez sûrement cette interview dans laquelle elle dit « Je suis féministe ». Et elle dit
«
Voilà, j'ai participé aux parades dans les années 1910. Je me suis enchaînée à des lampadaires. » Et en fait, ses biographes ne trouvent pas vraiment trace de son engagement de façon officielle, mais elle a sûrement participé à toutes ces manifestations.
Les féministes de l'époque, elles ressemblaient entre guillemets à quoi ?
Alors, c'était souvent des femmes blanches de la classe moyenne, éduquées. Alors, il y a un groupe qui se monte à New York en 1912 qui s'appelle Hétérodoxie. Et dans ce groupe, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont journalistes, écrivaines, avocates,
donc,
enseignantes.
Ça passe par la culture.
Voilà, beaucoup, effectivement. Ouais. Donc, ça, c'est un groupe qui se revendique comme féministe. Parce qu'en fait, à l'époque, le mot apparaît. Et il y a, le grand mouvement, c'est le mouvement pour le droit de vote. Et les féministes...
Ouais. Dire, oui.
Ça ne suffit pas, il faut autre chose.
Les combats, donc un, droit de vote.
Tout à fait.
Quoi d'autre ?
Alors, le droit à disposer librement de son corps, la contraception, le droit au travail.
Mais tellement en avance sur la France, c'est fou.
Ouais. Oui, tout à fait. Bah, et puis ça date
nous,
aussi
il a fallu
du 19e siècle.
Oui, c'est ça, 800, il a fallu attendre... De...
70, ouais, ça, c'est les, ouais, les mouvements de la tempérance et tout ça.
Le droit, de vote, le droit de vote en France, vous le dites dans la pièce. 45. D'ailleurs, nous, il a fallu attendre 45.
Ouais. Oui, nous, c'est 45.
Ouais. Ouais, c'est 45, ouais. Et pourtant, les Françaises se battent hein, à la même époque.
Oui,
et les Américaines et les Françaises se battent ensemble aussi. Donc,
dans la pièce aussi, Zabou dit que la prohibition a aidé la cause féminine.
Oui. Alors,
c'est dingue.
Oui, parce que c'est en fait le mouvement de la prohibition, le mouvement pour la tempérance, c'est le plus grand mouvement de réforme du 19e siècle. Il y a des millions de femmes qui se mobilisent pour cette question. Donc ça les a aidées à se former, à parler en public, à s'organiser. Et puis, ça les a aussi aidées parce qu'il y a eu une alliance entre le mouvement pour le droit de vote des femmes et le mouvement pour la tempérance. Donc, ça a été un mouvement
et alors,
important.
Comment expliquer que les États-Unis en avance sur le reste du monde pour le combat des femmes soient si en régression aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a toujours, de toute façon, une lutte, hein, et ça, on le voit à l'époque, parce que lorsque les femmes essaient de se libérer, vous avez une crise de la masculinité qu'on voit notamment dans les journaux, avec beaucoup de caricatures qui montrent les hommes faisant des courses, les hommes en jupe, les hommes au foyer, totalement inacceptable. Donc, effectivement, on retrouve, enfin, il y a toujours cette lutte, en fait. Mmh. Et les États-Unis sont en avance, oui et non, quelque
part. Enfin, non, l'ont été, et puis maintenant, il y a des États qui remettent en cause le droit à disposer de son corps.
Exactement.
C'est fou.
Ouais, tout à fait.
Donc il y a un nouveau combat féministe qui est en train de naître
oui,
aux États-Unis.
Et puis il y a un combat qui naît dans les années 20, qui est celui de l'amendement pour l'égalité des droits dès 1921. Et c'est en fait un amendement qui est revenu au goût du jour. Et puis effectivement, on a un renouveau des mouvements féministes depuis quelques années.
Mais pardon, je voulais juste dire une petite chose. C'est vrai, mais le contraste est le propre des États-Unis. Ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a une chose, il y a son contraire, mais d'une manière hyper tranchée.
Ouais. Donc, tout à fait. Et j'ajouterais que c'est aussi peut-être le patriarcat. C'est-à-dire que dès que les femmes essaient d'exiger leurs droits ou de demander leurs droits, il y a toujours un contre-coup, en fait. Et toujours une crise de la masculinité qui se met en place.
Ça y est, c'est parti. Ça commence.
Elle s'appelle, et je dénonce, elle s'appelle Claire Delahaye.
Et ils sont toujours en crise.
Maîtresse de conférence en études américaines à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, qui est venue nous parler de Dorothy Parker. Merci.
Elle le disait mieux.
Claire. Oui, c'est vrai.
Encore une fois.
On essaye, hein.
Faites-le, allez-y.
Dorothy Parker.
Bah, non, c'est beau. Allez, alors,
comment ça calme.
J'adore.
One more time.
Oh, ok. Tanguy Pasturo dans quelques instants.
Tanguy
Pasturo. Tanguy Pasturo. Mais d'abord, le héros du jour, Monsieur Daniel Morin.
Oh, yes, baby. Alors, mon héros du jour, Nagui, était déjà un héros il y a 55 ans. Petit indice. Oui, mon héros du jour n'est autre que...
Star Trek.
Eh oui, Captain voilà. Kirk, le commandant de l'USS Enterprise, le vaisseau intergalactique de Star Trek. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, à 90 ans, William Shatner va aller pour de bon dans l'espace. Décollage prévu mardi prochain, le 12, dans la fusée de Jeff Bezos, Blue Origin. Bon, attention, c'est mon héros du jour, mais il va pas traverser la galaxie comme dans la série. Hein. Il va faire un petit tour, tranquillou, c'est tout. Hein.
Tranquillou bidou, mais il va me tuer, non ?
Mais non, bon, enfin, je suis un peu inquiet aussi. Il a 90 ans, hein, bah Kirk. Ouais. Hein. Alors déjà, s'il perd pas ses dents, s'il vomit pas à 20 000 km/h, Ils seront bien contents, hein, sur la base. La question est, et vous le disiez, quelles sont les chances de survivre au décollage d'une fusée pour un homme de 90 ans? Et moi non plus, je suis pas hyper optimiste. Si ça se passe bien, si ça se trouve, il va croiser Thomas Pesquet, notre spationaute photographe, qui a déjà pris 60 millions de fois des photos de la France, avec comme légende, c'est petit, hein, vu d'ici. Bisous, Tom. J'espère qu'il va pas péter un blanc, Captain Kirk, hein, une fois en apesanteur. À 90 ans, tout peut arriver, t'imagines le truc? Mais où est Spock, bordel de merde? J'ai vu passer un truc derrière la lune, je suis sûr qu'on va se prendre une attaque de Klingon. En plus, j'ai rencontré un alien qui se fait appeler Thomas, qui photographie sans arrêt la Terre avec des commentaires à la con. Je suis sûr qu'il nous espionne. Tous au poste de combat! Préparez-vous, ça va chier dans le cosmos! Calmez-vous, William. Vous n'êtes pas Kirk, vous avez une crise de mal de l'espace. Je m'appelle pas William, je suis Kirk. Et qu'est-ce que vous faites avec vos oreilles, Spock? Elles sont rondes. Allez me les tailler immédiatement. Et dites au crétin qui fait cette chronique que la musique n'a rien à voir avec Star Trek. C'est le générique de la quatrième dimension, là. C'est qui? C'est pas Sturo? Non, c'est Morin, Captain. Ah bon? Ça m'étonne. Il est plutôt précis et talentueux, David. Peu importe. Bon, Spock, ça vient, ses oreilles en pointe, merde. N'empêche que même s'il ne va pas voyager dans son vaisseau USS Enterprise, mais dans la capsule à Bezos, style Suppo, eh ben, c'est quand même à cet âge-là un exploit considérable. William Shatner, même s'il m'a traité de crétin, a bien mérité le titre de héros du jour.
Merci, Daniel Morin. Tanguy, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je vais parler de Zhao Wei, l'une des plus grandes actrices chinoises qui a disparu. On explique qu'en fait, elle était trop célèbre et ça que Xi Jinping ne supporte pas. Il est très jaloux. Il veut qu'on l'aime lui et c'est tout.
C'est la bande originale avec Lina Kedourou-Dani, Morgane Casignan, Florence Mendez, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Zabou Breitman. Pour Dorothy.
Parker.
C'est back. Un spectacle écrit, interprété, décoré.
Adapté aussi.
Okay.
Des textes.
Des textes.
Alors, Dorothy, hein, parce que c'est Parker et le nom de son mari. Donc, un peu par respect pour elle aussi, je l'ai appelée par son prénom.
Oui, c'est ça. Non, d'ailleurs, vous le rappelez dans la pièce. Vous rappelez ses origines, vous rappelez aussi sa lutte, parce que tout peut venir aussi de là. Elle a été victime d'antisémitisme?
En tout cas, elle a fondé la Ligue anti-nazie. Elle s'est quand même, mais elle est née Rothschild et elle a été dans des écoles catholiques. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, parce que j'aime bien l'œcuménisme. Je trouve ça formidable, quoi.
Mais quand vous dites, elle est née Rothschild, ça veut dire qu'elle est née milliardaire?
Ouais, non. Et non. Ça peut être un nom de famille où on n'est pas milliardaire. Ça existe aussi.
Moi, je connais un Nagui pauvre.
Même si tous les juifs sont riches, ça se sait. Ça se sait bien.
Non, mais c'est vrai que Rothschild, c'est presque devenu un qualificatif
non,
de richesse.
Non, pas cette famille-là. Ouais. Non.
Pas pour elle.
Non.
Donc, Dorothy, née Rothschild, mariée par cœur et interprétée par Zabou Breitman, avec des œuvres donc, qui vous ont inspiré dans cette écriture, dans cette poésie, dans cet humour, dans ce drame, dans ces combats aussi quotidiens. Et je voulais qu'on reparle de la mise en scène, en effet, du regard extérieur, mais aussi du décor, de la manière dont vous jouez avec les lumières, avec les dimensions de la scène.
Et oui, je voulais...
Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Voilà, au départ, c'est comme un stand-up. Pardon. Là, c'était éclairé partout. Ça commence pas. L'idée, c'est que ça ne commence pas. C'était ça l'idée. Donc, je parle aux gens. Selon les soirs, c'est pas tout à fait pareil. Puis je démarre et on sait
pas. Très naturellement. On n'a pas l'impression d'être dans une pièce.
Ça n'a pas démarré.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Et en fait, ça a démarré, mais on ne sait pas que ça a démarré. Et ça a démarré. Et puis petit à petit, on rentre dans le théâtre. Et petit à petit, on voit. Et c'est pas parce qu'on voit comment c'est fabriqué qu'on n'accède pas à la scène. Hein, c'est pareil. Au spectacle, je veux dire. Mmh. Et donc, j'ai pris je me suis amusée à avoir la console lumière, à bouger les lumières. Bon, évidemment, il y a quand même une éclairagiste qui a fait la lumière. Il y a quand même, heureusement,
Stéphanie Daniel
qui a fait la lumière. C'est pas, j'aurais pas fait la lumière, c'est pas moi. Je fais la régie lumière sur scène. Et Johan Blanchard qui m'a fait des petits trucs au son magnifiques, qui s'éclairent d'ailleurs pour pas que je me plante. Parce que ça me met une pression supplémentaire.
Non, mais vous jouez avec ça aussi, avec le. Bon, on est dans la pénombre. Bon, pas à ce point-là. Je remonte, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous jouez avec le côté. côté incident, entre guillemets. Vous jouez avec cette lumière qui donne une profondeur de champ et qui donne une ambiance différente en fonction du moment où ça se passe.
Mais oui, et puis on voit... Et encore une fois, on voit comment c'est fait. Et c'est pas parce qu'on voit comment c'est fait qu'on n'accède pas au,
on y croit pas
au moment. Oui, exactement. On peut quand même y croire. Mmh. Et j'aimais bien l'idée que ça soit très, très, très artisanal. Ça me plaisait énormément. Ça a contribué à me foutre une panique totale plusieurs fois. Quand j'ai démarré à Avignon, là, j'ai cru mourir tellement j'ai eu peur. Et là, je me suis dit, mais pourquoi, ma pauvre, pourquoi, qu'est-ce que ça gagne? Et en fait, si ça, est-ce que c'est moi qui me retrouve dans un état comme ça de fragilité? Est-ce que c'est bien? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est voilà, c'est intuitif.
Vous l'avez voulu.
Ouais, je l'ai voulu. Mais c'est intuitif, en tout cas. Voilà, c'est une intuition un peu éclairée, c'est le cas de le dire, avec la console lumière. Non, mais c'est en tout cas, voilà, c'est je sais pas vraiment, mais je le sais un peu.
Ouais. Voilà, Dorothy, c'est jusqu'au 24 et demain soir, c'est ça, Antibes.
Yes.
Demain soir, Antibes, et jusqu'au 24 oui, octobre, monsieur. Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Monsieur Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Alors ce midi, je vais vous parler de la Chine, terre de contraste aux accents millénaires selon Nouvelle Frontière. Horreur totale, on préfère parler d'autre chose comme du céleri rémoulade selon les organisations de défense des droits de l'homme. Mon petit chez moi dans lequel je fais ce que je veux n'a d'abord selon Xi Jinping, le président local. Alors Xi Jinping, c'est un dur, hein, on a moins envie de lui dire tire sur mon doigt que de faire un gros bisou à un chasseur qu'on s'était déguisé en chevreuil. Mais bon, il représente un marché d'1,4 milliard de gens. Ah ouais. Donc quand il vient, on déroule le tapis rouge. Et si l'on demande un bleu, on appelle Toto Sol pour acheter de la moquette bleue au maître et on se met à bosser dessus, les 12 derniers stagiaires de l'ENA avant dissolution. Et s'il en demande un jaune à pois vert, là on lui dit gros t'abuses, et il répond pardon, j'ai essayé, on a quand même le droit de se marrer. Actuellement, Xi Jinping et Joe Biden, sachez-le, sont en froid, hein, ils font plus de boudin que ton oncle qui est charcutier à Auxerre. Des histoires de business, Biden qui relance son économie depuis que tout le monde là-bas a eu ses 13 doses de vaccin, veut vendre des trucs aux gens, mais tout est fabriqué en Chine. Les papites du gamin, le petit haut de la daronne, et le dernier smartphone du père de famille, sur lequel il a installé Green pour essayer de choper des mecs à petit cul sur l'heure du déj. En échange, la Chine achète aux États-Unis maximum 4-5 paquets de Frosties à foutre dans du lait, hein, qui produisent en intensif, puisque là-bas, ils ont des fermes de 70 000 vaches. Rien que si on veut les sortir pour brouter, ça prend du lundi au jeudi. Donc on ne les sort pas. Et toute leur vie, elles restent sans bouger, juste à sortir du lait. La même vie qu'Edouard Balladur, le lait en plus. Hein, Balladur ne produit pas de lait. Hein, c'est pour ça que sa femme doit acheter les Kinder Pingouis au lieu de les faire maison, quoi. Bref, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine se creuse. Et l'autre truc qui déplaît à Biden, c'est que Xi Jinping, politiquement, opère un virage à gauche. C'est le seul au monde actuellement. Nous, c'est le contraire. Hein, je pense que même Anne Hidalgo, à terme, va demander qu'on renvoie les immigrés des 4 dernières générations chez eux et donc se barrer, eh bien, elle-même. Oui, Xi Jinping, donc là, va être réélu. Au départ, il devait céder sa place, mais il a bidouillé la Constitution. Il a ajouté « avis » derrière « président ». Daniel Morin a fait pareil avec son contrat à France Inter en 2005. Et il a 68 ans. Pas Daniel, Xi. Or, à cet âge-là, vous commencez à compter les années qui restent et à revenir plutôt vers ce que vous êtes vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'à Pattaya, il y a plein de vieux. Un jour, ils passent devant l'hôtel Robert Desnos, se disent « moi aussi j'ai envie de jouer à chat, mais au chapelet, tout nu. » Et donc, ils le font à l'étranger où on peut acheter donc des enfants. Hein, si, les pays asiatiques. Alors, je reconnais qu'au début, ça fait bizarre. Hein. D'ailleurs, on dit à un ami « alors j'ai pris du café, des filtres, du pain, le bouquin de Zemmour, du riz. Ah, j'ai oublié de prendre un enfant. » Bon, Xi Jinping, c'est pareil, sauf qu'il n'est pas pédophile, il faut bien qu'il ait une qualité, il est marxiste. Et là, après avoir développé le business au maximum sur 20 ans, il revient au marxisme. Donc tous les gugus qui sont devenus milliardaires après avoir développé une appli sont muselés. L'an dernier, Jack Ma, la star de la tech chinoise, avait disparu en octobre. Il faut dire qu'il critiquait le pouvoir chinois. Bon, il n'est réapparu qu'en janvier 2021, portant un t-shirt « I love Xi Jinping » avec le visage de Xi Jinping tatoué sur l'omoplate, hein, gauche bien sûr. Donc il faudrait vérifier si Xavier Dupont de Ligonnès un jour n'a pas en fait dit une bêtise à propos de la Chine. Parce qu'il est peut-être juste en prison à Pékin à regarder la version chinoise de « Ça commence aujourd'hui » avec Faustine Bollard. Hein, c'est la même chose qu'en France, sauf que le seul qui vient parler de lui, c'est Xi Jinping. Bref, Jack Ma a réapparu, mais Zhao Wei, une des plus célèbres actrices chinoises, elle vient de disparaître. Elle était là, pouf, elle est plus là, Festival de la Magie 84, Gérard Majax. Alors, elle n'a pas disparu disparu physiquement. Son mari peut la serrer contre lui, son chien peut la lécher, ou l'inverse. Elle a disparu d'Internet. Ses réseaux sociaux ont été effacés. Elle avait 86 millions d'abonnés, 86 millions de plus que Michel Barnier. Vous tapez son nom sur le web, il n'y a plus de résultats. Et les films dans lesquels elle a tourné sont indisponible. Ce qui veut dire qu'elle n'existe plus parce que nos vies aujourd'hui sont numériques. Nabila sans les réseaux, c'est une fille en pleurs qui à Dubaï déballerait seule dans sa chambre. Bah rien du tout parce que les marques de sacs de luxe auraient cessé de lui en envoyer. Au mieux, son mec la filmerait en train d'ouvrir un courrier de la Matmut pour le renouvellement de sa cotisation. Alors pourquoi Zhao Wei a-t-elle été effacée? Eh bien selon la presse chinoise en exil, parce qu'elle était devenue trop célèbre et faisait de l'ombre à Jinping. Là-bas, être fan de quelqu'un d'autre, c'est interdit. Si Jinping rachète la France, au concert de Christophe Maé, au lieu de crier « On t'aime Christophe », il faudra murmurer « Ouais, pas mal, le show de cet individu dont on a déjà oublié le nom et qui ne vaut en rien Xi Jinping hein ». Un match du PSG, on criera « Sympa Lionel Messi, mais Xi Jinping, il dribble mieux hein ». Voilà, l'adorer lui en Chine, c'est possible, sa pensée est même enseignée dans les écoles. Hein, heureusement qu'on ne fait pas ça en France avec celle de Macron. Hein. Si tu veux, tu peux, pleure pas boulou, sors-toi les doigts. Hein. Bon, en fait, on peut juste aimer Xi Jinping et à travers lui, le communisme. Alors bien sûr, le modèle est tentant. Hein. Macron devant sa télé qui verrait Vita et Slimane, il dirait « Ah non, moi j'aime la musique noble, Amel Bent », tu vois, et il couperait leur réseau. Mais ça en dit long sur Xi Jinping, voilà, qui chez lui en gros peut décider bah, qui reste sur le web ou pas. En fait, Internet là-bas, c'est son fanzine. L'actrice Zhao Wei un jour réapparaîtra, sans doute affaiblie, un sourire usé lui barrant le visage, affublé d'un t-shirt « I love Xi Jinping ».
Voilà, tu l'as bien descendu. Merci, oui. Tanguy.
Et plus facile à prononcer, le 15 octobre, ce sera à Ruffec, en Charente.
Eh oui.
Eh oui.
L'actualité culturelle, oui. Dorothy, donc, se joue au théâtre de la Porte-Saint-Martin par Zabou Breitman jusqu'au 24 octobre. Et demain soir, au théâtre Antea d'Antibes. Et sinon, quoi d'autre, Benda, cadeau beauté.
Quelle est la dernière star qui vient de rentrer au musée Grévin?
Tanguy Pastureau.
Non.
C'est qui? Ah, non.
Ce n'est pas du cinéma.
C'est pas Sophie la girafe.
Si, absolument, une star que le monde nous envie. Sophie la girafe vendue à plus de 70 millions d'exemplaires.
Peut-être la réussir, ça.
Alors cette fois-ci, elle fait pas 18 cm de hauteur comme d'habitude. La réplique mesure 1 m 70. C'est d'ailleurs le 60e anniversaire de ce jouet 100% français et elle ne sera pas faite en cire mais en silicone parce que la girafe mérite bien ça.
Ah bon
absolument.
Ça, on va regarder
j'adore
cette phrase.
Girafe.
C'est quoi cette phrase?
J'adore cette girafe. Sophie, elle va rester.
Bien sûr.
La reconnaissance ultime pour vous, Zabou, c'est le musée Grévin, c'est une girafe, Sophie. C'est quoi la reconnaissance ultime?
La reconnaissance ultime, je sais pas, j'y pense pas du tout en fait.
Mais si vous deviez y penser?
Si je devais y penser...
Vous pouvez faire un effort.
Une statue dans le hall de la Comédie Française.
Non, un théâtre.
Ouais. Un théâtre, Zabou Breitman.
À ton nom.
Un théâtre ou une... Non. Une école de théâtre. École de théâtre. Ça me plairait plus. L'école me plaît plus.
D'accord. Et fonder cette école?
La transmission.
Ça me plairait. Ouais, la transmission, ouais.
Et la fonder, cette école, vous-même?
Ouais. Mais il y a tellement d'écoles de théâtre, mais ouais, c'est l'école. Ça me plairait plus.
Autre chose?
Quel est le nouveau projet audiovisuel de la meilleure amie de Tanguy Pastureau, à savoir Gwyneth Paltrow?
Ah, tiens, elle a des projets.
C'est un truc avec des odeurs
de Schneck.
Non, projet audiovisuel. C'est marrant quand vous n'écoutez pas l'intitulé de la question,
non,
tellement vous êtes orienté vers.
Projet
audiovisuel, pas cinéma.
Elle avait fait des bougies, c'est ça.
Oui, mais là, je parle d'un projet audiovisuel.
Un voyage sensoriel.
C'est pas du zen. Non, c'est très yoga, tout ça.
C'est pas du zen, mais c'est un autre sujet qu'elle maîtrise parfaitement bien.
Méditation.
Les bougies.
L'écologie.
Le spa. Le vagin.
Oui, donc.
La sexualité.
Absolument, ça va s'appeler Sex, Love and Goop, une série doc sur Netflix dans laquelle l'actrice parlera de sexualité et conseillera des couples cherchant à améliorer leurs relations.
Gwyneth.
Qui
fait une petite
préféré...
succession en ce moment quand même.
Ouais. Gwyneth qui a fendu les blancs.
Ça sonne pas bien en français, Gwyneth.
Si, enfin, joli. C'est mignon.
Ouais. Ça sonne bizarrement.
Gwyneth qui a préféré arrêter le métier de comédienne pour devenir une sorte de grand chef d'entreprise, gourou du lifestyle. Vous avez eu envie de tout arrêter, Zabou. Et si vous deviez arrêter un jour, vous feriez quoi?
Je ferais plusieurs choses. Mais un travail manuel,
Fraiseur-tourneur.
Hein?
Fraiseur-tourneur,
peut-être. Bois. Dans le bois, non, la céramique, la porcelaine, je travaillerais ça, ouais.
Prof, je transmets ça.
Non, je suis pas assez bonne, je pense.
Prof?
Ouais, faut avoir.
Puis il y a des horreurs.
Non, mais ça, c'est bien, ça me plaît, moi. Mais non, je pense fabriquer de la céramique et des choses comme ça.
Et des costumes?
En céramique.
Ah ouais, aussi. Mais non, parce que les décors.
Vous êtes occupé des costumes.
Chaussures.
Moi, je me suis un peu occupé. Il y a quand même un monsieur qui s'appelle Bruno Fatalo qui a fait des sublimes costumes, dont des costumes avec magique. Des costumes qui, avec des changements rapides.
Il faut dire que vous changez, c'est ça. Il y a un côté Arturo Brachetti.
C'est incroyable ce qu'il a fabriqué.
Vous changez sur scène, si ça peut attirer du monde. Je dis ça au passage.
Mais je suis derrière un petit paravent quand même.
Oh, vous avez gâché la surprise. The Artist, des auteurs, compositeurs, interprètes, créent des chansons et les proposent aux auditeurs d'Inter, mais aussi aux téléspectateurs de France 2, puisque les deux sont partenaires pour The Artist. Ça sera en direct demain soir à 22h40, avec cette semaine la deuxième demi-finale, où il y aura Fiskara, il y aura Gabriel Joseph, Anissa, Claire Hardy...
Putain, t'as brisé mon cœur, tu me dis quoi et tu baises ailleurs.
Il y aura également Rookin.
Je sais pas que ça a fait.
Ou Cynthia.
Appelle-moi mademoiselle et viens, on se boit deux, trois cocktails, c'est rien. Et dans nos timides échanges, on part sur quelques pas de danse en lendemain.
Ces auteurs, compositeurs, interprètes suivent avec vous, les cadeaux Bonadi, des masterclass.
Oui, Nagui, avec moi, ils suivent des masterclass. Et hier, on était avec Suzanne. Et avec Suzanne, on a parlé des premières fois. Suzanne, vous la connaissez, c'est une jeune artiste qui a démarré très 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 fort.
Auteur, compositeur, interprète.
Auteur, compositeur, interprète. Elle nous parle de ses premières fois.
Je suis très attachée à ses premières fois. Et quand elle passe ses premières fois, tu sais, t'as toujours cette petite nostalgie de te dire, bon bah, c'est fini quoi. Mais même chaque journée qu'on vit, hein. C'est la seule fois. Et j'essaie de garder un petit peu ce truc-là de naïveté presque. De c'est encore la première fois et ce sera toujours le début en fait. Garder ce truc de c'est un début qui dure longtemps, qui durera longtemps, j'espère.
Garder la fraîcheur,
ouais. Un absolument. Début qui dure longtemps.
Garder cette fraîcheur. Suzanne, ça fait partie des artistes les plus programmés en festival. C'est pas la même chose de jouer dans une salle avec son nom écrit en gros et de jouer dans un festival puisque les gens peuvent venir voir d'autres artistes.
Ils viennent pas pour toi. Ouais.
Et éventuellement s'arrêter et vous les attraper ou pas. Elle en parle bien.
Je pense que c'est pour la découverte. C'est le meilleur, parce que là, on arrive à chanter nos chansons face à un public qui ne nous connaît pas. Bon, c'est opération séduction, hein, quand on se le dit, c'est chaque personne à les chercher. Mais en même temps, c'est une énergie folle quand on arrive à ce moment-là de pouvoir chanter ses chansons devant un public à séduire. C'est quand même un grand moment et une belle première fois. C'est la première fois qu'on rencontre ce fameux amour qu'on arrive à décrire avec cette foule, quoi.
Les premières fois, c'est la première chanson, c'est la première scène, la première interview radio, la première fois où on s'entend même à la radio, où on se voit à la télé en promo. C'est étrange. Et puis, les premières fois, c'est aussi des choses trap, le premier contrat, par exemple.
Alors, la naïveté, il faut la garder parfois dans cet aspect d'écrire des chansons et de se dire « Ah, voilà, j'ai écrit une chanson et c'est génial », et rester naïve là-dessus. Par contre, rester naïve sur... les contrats, ça c'est quelque chose où au début on regarde pas trop. Mmh. On y va et on connaît pas ce monde au départ. C'est vrai que c'est un monde où alors il y a des paillettes, il y a des gens toujours très sympas. Je veux dire en général les gens sont très sympas. Mais il y a aussi plein de requins. Faites attention.
Voilà, ouais, il faut faire gaffe au contrat avant de signer. Ça, c'est valable pour tous les métiers.
Jean-Louis Aubert avait mis aussi une petite alerte sur ce sujet-là.
C'est ce soir que tu reçois dans la masterclass
Raphaël.
Raphaël, très bien. Je rappelle, c'est en direct à 22h40 sur France 2, The Artist, avec France Inter, avec Spotify. Et Fiskara, Rookin, Cynthia, Gabriel Joseph, Anissa, Claire Hardy attendront vos votes pour savoir s'ils vont ou pas en finale. Trois s'en iront et dans le jury, Benabar, Elodie Frégé, Claudio Capéo et Texas viendra également faire un duo avec nos artistes. Zabou Bretman au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 24 octobre avec Dorothy. Et parmi tous les projets, il y a également Mon Chat. On en parlait tout à l'heure avec Florence Mendez. Ce film, vous partagez l'affiche avec Pascal Elbé.
Avec entre autres Pascal Elbé, aussi Camille Lelouch, Mélanie Bernier, il y a plein de gens. Et c'est le
pitch.
Le pitch, voilà. C'est Cécile Tellerman qui a écrit et qui réalise. Et c'est simplement un couple dont je suis la femme qui reçoit des amis en vacances. Et elle a un chat qu'elle aime par-dessus tout. Et il se trouve que le chat va être écrasé.
Mais non.
On pense. Oui, on pense que le chat est écrasé. Et que c'est un des convive. Qu'il, voilà, ouais. qu'il a écrit. Et que donc, tout le monde le sait et que personne ne va le dire. Et ça va provoquer.
C'est, c'est Agatha Christie, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec qui a tué le chat.
Tout devient suspect. Bah oui, bien sûr, tout devient suspect. C'est tellement drôle, ben, c'est-à-dire...
Et vous avez dit, on m'offre de très jolis rôles en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de jolis...
Pas en ce moment, on m'offre pas de très jolis rôles, mais ça, c'est un joli rôle. Ça, c'est un vrai joli rôle.
Comment on définit un joli rôle, alors?
Un joli rôle, alors... un joli rôle, c'est un rôle qui permet de ne pas être seulement monolithique, quoi. Qui permet de peut-être aller trouver des choses qui ne sont pas de manière évidente là.
Plusieurs
et qui
choses à jouer.
Et qui permettent d'échanger. En fait, ce qui est intéressant dans un rôle, c'est avec qui on va jouer et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur des scènes. C'est l'échange qui va être beau, quoi.
Et alors, vous avez écrit une série de KPDP.
Alors, je suis en train, voilà.
Légitimement, j'ai envie de dire. Bon, c'est voilà, dans votre ADN.
Avec le papa qui a écrit Tirer la fronde, c'est sûr que il avait eu cette idée dans les années 80 que chaque mousquetaire a une fille. Qui serait le portrait craché de son père. Ouais, mon père était très féministe, hein, c'était un mec super. Et voilà. Donc il y avait une Portia, une Araminte, une Athéna et une Charlotte pour Charlotte de Batz, fille de Charles de Batz d'Artagnan. Et que de manière, de la même manière qu'il a inclus Tirer la fronde dans l'histoire de France, dans la vraie, elles sont dans la vraie histoire. Donc une pour toutes. On a été chercher, je coécris pour le moment avec Nicolas Peufailly, on cherche, c'est quoi les femmes au 17e, c'est plus que ça, c'est 1665, on a une date, on a une et c'est parce que c'est une période voilà très 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 riche. En fait, il se passe plein de choses, mais simplement on n'en parle pas. Mais par exemple, les précieuses dont on ne connaît que les précieuses ridicules est un mouvement éblouissant, extraordinaire. Et il suffit juste d'aller se pencher sur la vraie histoire pour trouver tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'inventer des machins et des trucs. Simplement, on va mettre des personnages pour nous emmener dans une aventure. Oui, l'idée, c'est que ça soit épique, évidemment. Moi, j'adore ça. Hein. C'est entre le western et le... Évidemment, mais c'est comme du western à l'époque. Et ça soit épique, ça soit vrai. Il n'y a pas besoin. Il parlait de faux anachronismes. C'est-à-dire que quand on met des véritables histoires, on dit, ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, ça s'est passé à ce moment-là. Et en plus, on peut s'amuser à inventer des inventions qui n'existent pas encore, mais qui auraient pu. Par exemple, le catamaran ou la machine à vapeur. La cocotte minute, non, mais bien sûr. Et c'est tellement rigolo, c'est qu'on ne sait pas la cocotte minute, ça va être une arme ou un truc pour cuire des pommes de terre, quoi.
Dorothy, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, porté par Zabou Breitman, un seul en scène passionnant. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Oui, désolé pour le théâtre du Châtelet, le théâtre Antoine, les théâtres de Lille, de Nice, plus largement tous ceux qui n'ont pas été cités et promus, honteusement promus par Leïla Kadour-Boudadi et Nagui. Alors, c'est simple, adressez vos chèques à la bande originale Maison de la Radio au plus rapide. Un petit virement sur un compte aux îles Vierges. Hashtag Pandora Papers. Désolé pour Nagui qui ce matin, on a entendu, a beaucoup de mal à comprendre ce que voulait dire Zabou Breitman en matière d'échange, de discussion constructive en tant que patron. Et comme tu me le disais à la pause, Nagui, vraiment un truc de gonzesse. Hein. Heureusement, c'est pas passé à l'antenne. Désolé enfin pour tous les planchons qui nous écoutent, tous les Roger, tous les Robert qui sont sentis humiliés par la désinvolture avec laquelle on s'en foutait de leur état civil. J'ai même reçu un appel de notre journaliste météo du matin pour me dire, et moi alors, pourquoi on parle pas de moi, c'est dégueu. Mais non, t'inquiète pas, Marie-Pierre Planchon. C'est juste un oubli. On pense à toi, évidemment.
Merci, Zabou Breitman. Et
merci
bravo pour ce spectacle.
Tellement. J'adore être là.
C'est réciproque.
Je vais revenir. Non,
Zabou,
ça suffit.
Au théâtre de la Porte de Saint-Martin avec Dorothy jusqu'au 24 octobre. Profitez-en vite.